la plupart du texte parle de cela. Mais cette tente n'est pas n'importe quelle tente, vous l'aurez compris, et elle est appelée d'ailleurs tente de la rencontre avec Dieu, ou encore, dans le texte que nous avons lu, la demeure de Dieu. Dans le désert du Sinaï, où se trouvaient les Israélites, Dieu a établi sa demeure de façon symbolique dans une tente. Bien sûr que Dieu est partout et que sa présence ne s'est jamais réduite à cette tente ou à un quelconque autre lieu, mais dans le cadre de l'alliance qu'il a conclue avec ce peuple d'Israël dans le désert, cette tente, c'était le lieu où Dieu avait établi sa résidence et le lieu où on venait le rencontrer. Alors encore une fois, à première lecture, le texte de ce soir peut paraître un petit peu anecdotique. On y voit donc Moïse construire la tente. Je pense qu'on peut dire construire, parce que c'était plus que simplement quelques piquets. Donc c'était tout un boulot. Et installer les choses telles que le Seigneur lui avait dit à l'intérieur de la tente, on voit qu'il suit précisément justement les instructions que Dieu lui avait données auparavant sur le mont Sinaï. En fait, ce texte est extrêmement important. Il est important pour nous justement parce que à la rencontre du dimanche soir, notre désir, c'est de venir à la rencontre de Dieu. Et pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens, nous affirmons la présence de Dieu parmi nous. Non seulement ici, dans une église d'ailleurs, c'est important de le dire, mais en nous et dans notre vie entière. Or, on voit que dans notre texte, la présence de Dieu, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Et je voudrais vous proposer trois points de réflexion, donc trois leçons tirées de ce texte. Premièrement, Dieu établit sa demeure lorsque son peuple est revenu à lui. Deuxièmement, la présence de Dieu est glorieuse et solennelle. Troisièmement, la présence de Dieu met en marche. Donc Dieu établit sa résidence, sa demeure, lorsque son peuple est revenu à lui. Alors, lorsqu'on arrive donc au chapitre 40 de l'Exode et qu'on voit Moïse construire et installer la tente de la rencontre, on a presque envie de se dire « Ah oui, c'est vrai, la tente de la rencontre ». On avait presque oublié. Parce qu'en fait, c'est bien plus tôt, au chapitre 25 de l'Exode, que Dieu ordonne à Moïse de construire cette tente, qu'on appelle aussi le tabernacle. Mais entre-temps, il y a eu un drame. Et on en a parlé il y a 2 semaines. Le peuple de Dieu s'est détourné de lui et a préféré adorer une vulgaire idole, un veau d'or. Et cette terrible désobéissance a conduit à la colère de Dieu, qui s'est abattue sur 3000 hommes qui s'étaient prosternés devant ce faux Dieu. C'était certainement pas les seuls d'ailleurs qui s'étaient prosternés devant lui, mais donc 3000 hommes. Et fou de rage devant l'impiété du peuple, Moïse avait fracassé les tables de la loi, qui pourtant lui avaient été remises par Dieu lui-même. Donc vous imaginez la gravité du moment. Autrement dit, tout était à refaire. La relation avec Dieu avait failli être définitivement détruite. Mais Dieu, dans sa grâce, a choisi de répondre à l'intercession de Moïse, d'épargner la plupart du peuple et de continuer à les conduire vers la terre promise. D'ailleurs, comme preuve de cette grâce, Dieu va donner à Moïse de nouvelles tables de la loi et Moïse va commencer à préparer le peuple à accueillir en son sein la demeure de Dieu, donc cette tente qui symbolise sa présence parmi eux. Après le terrible épisode du veau d'or, donc, le peuple s'est repenti. Aujourd'hui, dans ce récit, il est obéissant. Alors, la suite montrera que ce n'est pas forcément pour très longtemps. Mais là où on est dans le récit, le peuple a compris qu'on ne rigole pas avec la présence de Dieu. Et qu'on ne va pas s'amuser à construire une idole en or alors que le Créateur de l'univers nous propose de résider parmi nous. Même si l'obéissance du peuple reste bien fragile, Dieu agit favorablement parce qu'il a un plan bien précis à l'esprit. Un plan qui passe par cet exode et par cette présence symbolique dans le désert auprès du peuple israélite, même si bien sûr son plan dépasse infiniment ce moment dans le désert. Si Dieu a agi favorablement, et ça on l'a vu également il y a 2 semaines, c'est aussi parce qu'il a désigné Moïse comme médiateur, comme intercesseur pour le peuple, c'est-à-dire comme avocat en gros, comme avocat du peuple. Et Moïse, lui, est obéissant. Et le texte d'ailleurs le souligne fortement. En répétant comme un refrain à 8 reprises que Moïse a tout fait comme le Seigneur le lui avait ordonné. Verset 19, verset 20, verset 21, verset 22, verset 25, verset 27, 29 et 32. Donc vraiment comme un refrain dans ce texte, Moïse a tout fait comme le Seigneur le lui avait ordonné. On peut se demander pourquoi le texte insiste tant sur cet aspect. Je pense que c'est parce qu'il veut nous montrer que Dieu établit sa demeure lorsque le peuple lui est obéissant. Alors soyons clairs, Dieu est là, qu'on soit obéissant ou pas. heureusement pour nous, mais pour que Dieu fasse sa demeure auprès de nous, pour que nous puissions goûter de sa glorieuse présence comme un bienfait, pour être accueillis dans sa présence comme ses enfants, il nous faut d'abord nous détourner des idoles et nous tourner vers Dieu. Il faut bien faire attention, lorsque je dis cela, je ne suis absolument pas en train de dire que c'est parce que nous faisons de bonnes choses que Dieu dit « Ah, c'est bon, allez, je vais vous sauver, je vais résider parmi vous. » Mais on ne peut pas, en même temps, vivre frontalement dans la désobéissance à Dieu et servir des idoles, et en même temps, demander à Dieu de venir établir sa résidence parmi nous. Lorsque le peuple s'était tourné vers le veau d'or, la présence de Dieu est devenue pour eux quelque chose de terrifiant. La présence de Dieu n'était plus une bonne nouvelle pour eux. Au contraire, ils se sont trouvés sous le jugement et la colère du Dieu trois fois saint. Mais quand le peuple est revenu à Dieu et s'est replacé sous son autorité pleine d'amour, la présence de Dieu est devenue pour eux à nouveau une source de bénédiction, une bonne nouvelle. Alors il est bien important de souligner que nous vivons aujourd'hui à une autre étape de l'histoire du salut, de l'histoire de l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine, à une autre étape donc que celle que nous présente ce récit. Tout à l'heure, on rappellera pourquoi nous n'avons plus besoin d'une tente de la rencontre, justement, pour rencontrer Dieu. Mais nous affirmons que Dieu est présent et qu'il est possible de s'approcher de lui et de s'adresser à lui. Or, si nous disons que Dieu est là, nous ne pouvons pas en même temps tranquillement continuer de vivre dans la désobéissance. Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et si c'est quelque chose qu'on prend à la légère, c'est que quelque part, on ne l'a pas bien compris ou bien on l'a un petit peu oublié. Et ça, on sait que ça nous arrive malheureusement assez souvent. Si nous vivons dans la désobéissance, si nous cherchons systématiquement nos intérêts plutôt que ceux de Dieu, ça laisse entendre que nous n'avons pas compris ce que sa présence veut dire. Pour que Dieu fasse sa demeure parmi nous, il nous faut nous détourner des idoles et nous tourner vers le Dieu vivant. Tout ce que nous pensons faire en cachette, en dehors de son autorité, eh bien nous devons y renoncer, reconnaître que tout lui appartient et nous tourner vers lui. Le deuxième point que je voudrais souligner est lié d'assez près au premier. La présence de Dieu est glorieuse et solennelle. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu ne se dévoile pas dans sa plénitude aux hommes. Nous ne pouvons pas le voir tel qu'il est dans sa majesté suprême parce que, en fait, on ne pourrait pas le supporter. La présence de Dieu est glorieuse. Alors comment concevoir la gloire de Dieu ? On ne peut pas pleinement. On ne peut que tâtonner, on ne peut qu'avoir quelques images peut-être qui nous donnent une idée. Alors je voudrais vous montrer une image prise avec le télescope Hubble, voilà, en 2003 je crois. C'est l'image qui nous montre la partie la plus lointaine de l'univers qu'on ait jamais pu avoir en photo. Je crois que c'est à 13 milliards d'années-lumière que ces images ont été prises. Voilà, ça nous montre des galaxies dont la distance de nous va jusqu'à 13 milliards d'années-lumière. Et en fait, chaque petit point que vous voyez, ce n'est pas une étoile, encore moins une planète, c'est une galaxie. Chacun de ces petits points, c'est une galaxie. Il faut savoir que chacune de ces galaxies comprend au moins des centaines de millions d'étoiles. Et chacune de ces étoiles à elle-même est incomparablement plus grande que notre planète. Donc quand on réfléchit un petit peu à tout ça, je trouve que ça donne un peu le vertige. Et maintenant, essayons d'imaginer un instant celui qui a créé tout ça à partir de rien. Impossible. Et en réfléchissant à la grandeur de Dieu, on comprend à quel point c'est lui qui a dû venir dans notre dimension. Il s'est fait connaître à nous malgré notre infinie petitesse. Si Dieu s'était révélé aux Israélites dans la plénitude de sa gloire, il n'aurait pas pu soutenir ça un instant, et nous non plus d'ailleurs. Donc il leur a demandé de construire un lieu à leur dimension, un lieu qui exprimerait d'une façon qu'ils pouvaient comprendre la perfection et la transcendance absolue de Dieu. Et c'est pour ça que les détails sont importants dans ce texte. Il y a donc le lieu très saint qui symbolise la perfection absolue de Dieu, sa sainteté, et seul le grand prêtre avait le droit d'y pénétrer une fois, aurait le droit d'y pénétrer une fois par an. Dans le lieu sacré, dans le lieu très saint, pardon, Moïse a placé le coffre de l'Alliance, on le voit au verset 20 et 21, donc qui montre et qui scelle quelque part l'alliance entre Dieu et son peuple. Il y a à l'intérieur de ce coffre les tables du témoignage, c'est-à-dire les tables de la loi, les 10 commandements. C'est une façon de montrer que la loi de Dieu qui a été communiquée au peuple, elle a pour fonction aussi de rappeler sa sainteté et sa présence parmi le peuple. Il y a l'autre section du temple qui est le lieu saint. Là aussi, c'était pas accessible à tout le monde, mais les prêtres pouvaient s'y rendre. Moïse a placé l'autel donc sur lequel seraient apportés les sacrifices qui allaient exprimer le besoin constant du pardon de Dieu. On voit ça au verset 26 et 27. Il y a aussi une cuve pour le lavement rituel, verset 30. Là encore, il est question de symboliser la purification qui est nécessaire pour entrer dans la présence de Dieu. Et il y a une table où il place 12 pains, verset 22. Et le livre du Lévitique nous indique que ça symbolise les 12 tribus d'Israël. Donc, une autre façon de dire que Dieu est en alliance avec son peuple tout entier. Alors, ça peut nous paraître un petit peu ennuyeux, tout cela, mais en réalité, ces symboles ont été choisis par Dieu pour que le peuple prenne conscience du fait que sa présence est glorieuse et solennelle. Et que cette présence, elle engage le peuple dans une relation exclusive avec son Dieu. Si on pouvait entrer dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, voilà, on ressentirait sans doute une impression de grande solennité. J'ai failli utiliser l'Élysée, mais ça impressionne un peu moins. Force est de reconnaître. Donc j'ai pris vraiment l'exemple terrestre qui peut-être nous impressionne le plus, quoi qu'on en pense. Mais donc, en pensant aux décisions qui y sont prises, au pouvoir qui est associé à ce lieu, je pense qu'en entrant dans cette salle, on se dit « Oulala, il y a beaucoup de choses vraiment qui ont un effet énorme sur le monde qui sont décidées ici. » Mais à combien plus forte raison Dieu a voulu que sa demeure parmi le peuple manifeste visiblement son pouvoir et sa gloire et qu'elle soit un témoignage de sa présence parmi le peuple. Dans la dernière partie du texte, on voit d'ailleurs que lorsque la gloire de Dieu envahit la tente, Moïse ne peut pas y rentrer. C'est insoutenable. L'homme pécheur ne peut pas supporter la sainteté absolue de Dieu. Rencontrer Dieu, c'est une réalité inexprimable. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus de tente de la rencontre. Pourquoi ? Essentiellement, la raison, c'est qu'il y a 2000 ans, Dieu lui-même est venu parmi nous. L'apôtre Jean nous dit, au chapitre 20 de son évangile, que le Fils de Dieu s'est fait chair et qu'il a établi sa demeure parmi nous. Et même si on regarde la racine du mot que Jean utilise, on pourrait même dire qu'il a établi sa tente parmi nous. Si Dieu lui-même est venu en chair et en os, on n'a plus besoin d'un lieu qui symbolise sa présence. Si vous avez la réalité, le symbole perd de sa pertinence. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Jésus n'est plus visible à nos yeux. Après sa résurrection, il est retourné vers le Père, nous dit la Bible. Mais en attendant son retour, selon sa promesse, il a envoyé l'Esprit Saint, par lequel Dieu lui-même réside parmi nous et en nous. Alors peut-être que ce que je vous dis là, ça vous paraît un peu du rabâchage. Pour ceux d'entre vous qui avaient grandi peut-être en allant à l'église, vous dites peut-être, j'ai entendu ça 1000 fois. Peut-être qu'au contraire, pour d'autres, cette idée que Dieu réside en nous, c'est vraiment bizarre et vous n'avez jamais entendu ça. Mais je voudrais vous citer deux paroles de Jésus à ce sujet, qui nous aident à comprendre ce qui est en jeu ici. Tout d'abord, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, Jésus dit ceci, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. » Et puis un autre verset dans l'évangile de Matthieu, encore une fois, c'est Jésus qui parle, chapitre 18, verset 20, il dit, « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, c'est ce que nous faisons ce soir, je suis au milieu d'eux. » Est-ce qu'on saisit bien ce que Jésus nous dit ici ? Si nous avons confié notre vie à Jésus-Christ et que nous avons donc reçu de sa part l'Esprit Saint, Dieu lui-même demeure en nous, avec nous. Et donc on n'a plus besoin d'une tente de la rencontre, on n'a plus besoin non plus de sacrifice parce que Dieu lui-même est venu et qu'il a lui-même accompli le sacrifice suprême à la croix. C'est pour ça que nous pouvons nous approcher de lui sans crainte, parce que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a consacrés pour Dieu. Il nous a revêtus de sa justice parfaite. Mais en plus de cela, Jésus nous dit que Dieu lui-même, donc, a établi sa demeure en nous par son Esprit. Alors si la tente de la rencontre, qui était le symbole de la présence de Dieu, elle est déjà associée à la gloire et à la solennité, combien plus la réalité de la présence de Dieu dans nos vies et dans notre être même et parmi nous, ça doit nous saisir. Et une fois qu'on aura tremblé un bon coup, ça doit nous émerveiller. Parce que ce Dieu qui a créé les millions de galaxies, comme on a vu tout à l'heure, ce même Dieu nous propose de demeurer en nous. Et ce miracle impensable est possible parce que Jésus-Christ a comblé par son sacrifice à la croix le gouffre immense qui existait entre nous et Dieu. Donc quand nous venons à la rencontre du dimanche soir, réfléchissons bien à ce mot « rencontre ». Nous rencontrer les uns les autres, c'est très bien et c'est important. Ça fait partie d'ailleurs du plan de Dieu pour nous. Mais rencontrer Dieu, c'est autre chose encore et c'est stupéfiant et c'est solennel. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être vécu simplement. Au contraire, je pense que la simplicité, parfois, nous permet de nous assurer qu'on n'est pas distrait par le rituel ou par une attitude pompeuse. Mais en même temps, ne prenons pas cela à la rigolade et ne faisons pas comme si c'était normal, habituel, tranquille, de venir ensemble à la rencontre de Dieu. Parce que c'est l'activité, en fait, qui devrait nous enthousiasmer plus que toute autre chose. Ce que nous faisons, c'est bien imparfait, hein, on est bien d'accord. Notre accueil, nos chants, l'écran qui a du mal à se remonter, notre enseignement aussi, tout cela est imparfait. Mais par ces modestes initiatives, nous disons à Dieu que nous venons à sa rencontre avec ce que nous sommes et nous avons un privilège inimaginable. Et j'en arrive au dernier point, la présence de Dieu met en marche. Il y a quelques années, je marchais rue de Sèvres, là, tout près, et j'ai vu Lionel Jospin, donc ancien Premier ministre, qui faisait du vélo avec sa femme. Alors, j'ai trouvé une photo, c'est pas moi qui l'ai prise, mais je me demande si c'est le même jour, parce que c'est rue du Cherche-Midi, donc juste à côté, et c'était exactement comme ça. Je sais pas. Mais voilà exactement ce que j'ai vu, donc. Alors, c'est vrai que je sais que ça fait un peu geek, hein, mais bon, j'ai étudié les sciences politiques, il fut un temps, et voir Jospin, donc, c'était quand même quelque chose pour moi. Surtout qu'à l'époque, ça faisait moins longtemps qu'il avait été Premier ministre. Il y avait des amis à moi qui marchaient un peu derrière. Et du coup, je suis allé vers eux, presque en courant, en leur disant, en leur montrant du doigt les deux vélos qui s'éloignaient, en disant « Regardez, regardez, c'est Jospin !» Alors, ce n'était pas vraiment une rencontre. Hein. Il n'y a eu aucune communication entre lui et moi. Ça a duré quelques secondes, je n'ai pas discuté avec lui. Mais de fait, quand on croise quelqu'un de célèbre, et ça arrive à Paris de temps en temps, le premier réflexe, c'est d'en parler. On a envie de le dire. Ah, j'ai vu un tel. À plus forte raison, si quelqu'un de célèbre venait demeurer chez nous, on n'aurait qu'une envie, c'est là d'en parler vraiment à tout le monde. Alors on peut se demander un peu pourquoi. Et je pense que c'est parce qu'on a le sentiment d'avoir été associé, même un tout petit peu, à leur célébrité. Tout d'un coup, cette personne qu'on a vue à la télé, qui paraissait inatteignable, elle se trouve dans notre quotidien, dans la même rue que nous. Et du coup, on a le sentiment qu'on peut presque toucher du doigt un petit peu cette influence et cette célébrité. Dans le texte de ce soir, on voit que la présence de Dieu parmi le peuple et la prise de conscience de sa gloire, elle les met en marche. Dieu les a appelés à être son peuple parmi les nations, ses témoins. Et comme ils ont compris qui il est et qu'ils ont goûté, ne serait-ce qu'un petit peu, à sa gloire, ils lui font confiance et ils le suivent. La fin du texte nous le dit. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites partaient pour chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle s'élevait. Le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure et la nuit, il y avait un feu sous les yeux de toute la maison d'Israël à chacune de leurs étapes. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait qu'ils suivent vraiment Dieu, ils attendent que Dieu leur montre qu'il faut partir. Mais je me contenterai de remarquer à quel point la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'ils sont appelés à juste contempler toute la journée en faisant rien, mais au contraire, c'est quelque chose qui les met en mouvement, vers la terre promise d'ailleurs. Et de même pour nous, le fait de goûter à la présence de Dieu dans notre vie, ça doit nous mettre en marche. Ce que Dieu désire de notre part, une fois qu'on s'est tourné vers lui et qu'on a pris conscience de sa présence, c'est que, ce qu'il désire donc, c'est que parce qu'on est émerveillé par le fait de vivre avec lui et d'avoir sa présence en nous, eh bien on quitte notre vie de routine où tout est prévisible, où on pense tout gérer pour suivre Dieu là où il veut nous conduire, avec les risques, les épreuves, le courage que cela nous demandera. Peut-être que vu de loin, la vie qu'on mènera au quotidien ressemblera à celle d'avant, Je ne dis pas que Jésus appelle chacun à quitter son travail, encore moins à quitter sa famille ou des choses comme ça. En revanche, notre vie ne peut plus être comme avant parce que nous avons tout remis entre les mains de Dieu. Et c'est ce que Susan, d'ailleurs, a déclaré tout à l'heure lors de son baptême. Alors cette réalité de rencontre avec Dieu, en fait, ce n'est pas que le dimanche soir ou matin qu'on est appelé à la vivre, bien sûr, c'est toute la semaine. Mais la particularité de nos rencontres ici à l'Église, c'est que nous sommes ensemble et ensemble, nous venons à la rencontre de Dieu et nous avons l'occasion de nous encourager ensemble à nous mettre en marche, à vivre avec lui et pour lui dans un monde qui ne le connaît pas, à être ses témoins dans ce monde. Il y a l'occasion d'être ses témoins de bien des façons. Alors ça peut être le lundi soir avec le groupe qui va devant la gare Montparnasse à 19h30. J'anticipe sur l'annonce de tout à l'heure. Ça peut être au bureau. Ça peut être à la faculté, ça peut être dans notre famille. Si nous avons fait la rencontre personnelle de Dieu lui-même, on voit mal comment il pourrait y avoir autre chose qui rivaliserait avec ça. Et on voit mal comment on pourrait ne pas avoir envie d'en parler tout le temps. Envie de partager notre émerveillement avec ceux et celles qui ont fait aussi cette rencontre décisive. Et envie d'aller à la rencontre de ceux qui, justement, n'ont pas encore rencontré Dieu. Pour leur dire que la voie est libre, Dieu les accueille pleinement. Dieu veut les accueillir. Alors là, je suis en train de dire ce qui devrait être. Et il nous faut reconnaître, et je m'inclus totalement là-dedans, notre grande insuffisance dans ce domaine. Tout autant que vous, j'oublie si souvent combien notre privilège en Jésus est extraordinaire. Et si souvent, je retombe dans la vie ordinaire, la routine, un peu comme si Dieu n'existait pas. Et j'oublie combien je suis infiniment privilégié d'avoir accès à chaque instant de ma vie au Créateur de l'univers. Je voudrais terminer avec des paroles qui sont tirées du Nouveau Testament, de la lettre aux Hébreux. Et notez bien l'image du sanctuaire, c'est-à-dire le lieu très saint que l'auteur de cette lettre utilise ici. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour où le Seigneur reviendra, que vous voyez le jour s'approcher. Ce voile qui, dans la tente, séparait le lieu saint et le lieu très saint, l'auteur aux Hébreux nous dit que Dieu, que Jésus, en fait, l'a réduit à néant. Ce qui veut dire que nous avons un plein accès à lui. Alors, puisque Dieu nous invite dans sa présence, eh bien, venons à sa rencontre et que la conscience de sa gloire nous mette en marche pour vivre la vie à laquelle il nous appelle. Amen. Parole à Paul.
Merci.